matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi. 19 nouveaux films arrivent au cinéma ce mercredi. C'est un record. On fait le tri dans un instant avec notre spécialiste maison, Stéphane Boutsock. Après l'Eurovision et un premier album vendu à 250 000 exemplaires, le chanteur Amir publie Addiction. Il s'agit de son nouveau disque. Il nous le présentera dans quelques instants au micro RTL de Steven Bellery. Très à table, le recueil 2017 de nouvelles inédites vendues au profit des Restos du Cœur sera publié jeudi. Parmi les auteurs qui s'engagent cette année, Michel Bussy et Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Bernard Lehu les a l'un et l'autre rencontrés. Et puis c'est toujours un plaisir, nous découvrirons avec Charlotte Latour le nouvel album classique de Philippe Jarowski, entièrement consacré à Handel, une première pour le contre-ténor.
RTL Matin, laissez-vous tenter.
On parle donc cinéma avec vous, Stéphane Boutsock, bonjour.
Bonjour à tous.
Avant de passer en revue quelques-uns des 19 nouveaux films à l'affiche demain, nouveau record,
c'est sûr.
On fait le bilan des entrées des 7 derniers jours.
Alors, chiffre arrêté à dimanche soir par nos amis du site cbo.fr, les vacances scolaires et des nouveautés alléchantes ont ramené le public en masse dans les salles. 910 000 entrées pour Thor Ragnarok, 746 000 pour la comédie Épouse-moi mon pote, gros score, et 420 000 pour Au revoir là-haut d'Albert Dupontel, film RTL, qui tire donc formidablement son épingle de ce jeu aux cartes rebattues. Notez que Le Sens de la Fête a passé la barre des 2 millions de spectateurs et L'École buissonnière, celui du million.
Place donc maintenant aux sorties de ce 1er novembre et tout d'abord Stéphane, celle du nouveau Roman Polanski d'après une histoire vraie.
Alors, sortie compliquée vu le contexte pour le cinéaste, toujours mis en cause dans plusieurs affaires d'agression sexuelle. Je précise que nous lui avions d'ailleurs proposé d'être notre invité à condition de pouvoir parler de tout et Roman Polanski a préféré décliner l'invitation. Si on se concentre donc sur le cinéaste,
oui.
Autant dire que son adaptation du roman de Delphine de Vigan regroupe plusieurs thèmes qui hantent le cinéma de Polanski depuis ses débuts. L'intrusion, l'identité, le mensonge. L'histoire est celle d'une écrivaine en panne d'inspiration qui va laisser son quotidien être envahi par une étrange jeune femme qui peu à peu va prendre le contrôle de son existence. Ambiance trouble, dérangeante, qui bascule parfois dans le grand guignol, c'est ma principale réserve sur le film. Côté casting, Eva Green dans le rôle de la femme mystère et Emmanuel Seigné dans celui de l'auteur. La comédienne, par ailleurs épouse de Roman Polanski, revient sur la genèse du film.
On cherchait quelque chose à faire ensemble comme on avait fait La Vénus et on cherchait un sujet comme ça qu'on pouvait faire un peu rapidement. Une amie m'a parlé de ce livre et je l'ai lu et j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très polanskien dans cette histoire, que ça me faisait penser un peu à Au locataire, un peu à Répulsion, un peu à Rosemary's Baby aussi dans un certain sens. Et je trouvais que c'était intéressant et je lui ai donné le livre et il a aimé beaucoup aussi. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Au départ, il aurait voulu que je joue le rôle d'Eva. Mais d'abord, je trouve qu'Eva, elle est beaucoup mieux que moi pour jouer ce rôle. Et en plus, je pense que moi, j'ai beaucoup fait avec, dans ses films à lui, un peu la femme fatale, tout ça. Et j'avais envie de me détruire un petit peu, quoi. De faire justement une femme qui est complètement au bout de sa vie, qui n'est pas mise en valeur. J'avais envie de ça, quoi.
Emmanuel Seigné, mais aussi Eva Green ou encore Vincent Pérez à l'affiche d'après une histoire vraie de Roman Polanski qui travaille toujours sur son prochain film consacré à l'affaire Dreyfus. Je vous signale aussi la sortie de Mise à mort du cerf sacré du grec Yorgos Lanthimos. C'était une des sensations du dernier festival de Cannes dont il est reparti avec le prix du scénario. L'histoire d'une famille, là encore, celle d'un brillant chirurgien et d'une brillante ophtalmologiste, le couple Nicole Kidman-Colin Farrell, famille qui va voler en éclats à cause de la vengeance d'un dont le papa était la victime d'une erreur médicale de Colin Farrell. Comme Polanski d'ailleurs, hein, c'est une affaire d'intrusion visuellement bluffante et vraiment formidablement interprétée.
Alors voilà pour les ambiances qu'on peut qualifier d'un peu lourdes.
Un petit peu.
Voilà. Si on a envie de se détendre, voire de s'amuser, vous auriez quelque chose pour nous?
Oui, une comédie, Daddy Cool de Maxime Govard avec Vincent Elbaz et Laurence Arnaud ou comment. Un quarantenaire immature, largué par sa fiancée, va s'incruster dans leur appartement en montant une crèche parentale, lui qui n'a pas d'enfant et qui a surtout 9 ans d'âge mental. Extrait, Maud annonce à Adrien qu'elle le quitte pour un autre.
Renaud va me demander en mariage.
Quoi ?
Je vais dire oui.
Tu peux pas épouser ce mec, il est chiant, c'est un exomile en costard.
Bah lui, il a pas besoin de se mettre des chaussures en croco et des tatouages partout sur le corps pour se prouver qu'il est rock, tu vois. Lui, c'est un vrai mec.
C'est-à-dire, explique-moi ce que c'est un vrai mec.
Mais je vais t'expliquer, mais je sais que le concept t'échappe un peu, mais je vais t'expliquer. Alors, un vrai mec, c'est un mec qui sait où il va, qui a un boulot, un minimum d'ambition.
Excuse-moi de ne pas avoir fait de l'argent une priorité de vie.
Et qui me fait du bien.
Ah ouais, ouais, pratique, confortable et fonctionnel. C'est un canapé, ton mec.
Ouais, mais en attendant, c'est pas lui qui dort dessus.
les dialogues à tout majeur de Daddy Cool qui, pour le reste, ne devrait pas bouleverser l'histoire de la comédie romantique. Et on entend évidemment ce classique de Bonnet. Si vous aimez le grand spectacle, je vous signale la sortie de Geostorm, énième film catastrophe, qui imagine comment un système censé contrôler la météo sur Terre tombe aux mains de méchants, il y a toujours des méchants, qui vont déclencher des cataclysmes divers et variés. Il y a quand même une vraie impression d'avoir déjà vu ça depuis Roland Emmerich notamment.
Alors, vous terminez Stéphane avec un documentaire qui vous a beaucoup touché, Carré 35, réalisé par le comédien Eric Caravaca.
Oui, excellent acteur télé, cinéma, théâtre, qui s'est lancé avec Carré 35 sur la piste d'une inconnue, sa sœur aînée, morte à 3 ans et dont la courte existence a été totalement gommé par sa famille. Plus de traces, pas de photos, pas un mot. Pourquoi ? Eh bien, la réponse douloureuse et libératrice est au bout de ce film sensible qui emprunte parfois presque la voie du thriller, basé sur les interviews des proches et de la famille d'Eric Caravaca. Extrait.
Vers la fin des années 50, mes parents se marient à Casablanca. Sur ces images, il me semble les découvrir pour la première fois, affichant une insouciance que je ne leur connaîtrai jamais. Je ne peux qu'observer les allures d'un homme et d'une femme auquel doit arriver une grande douleur et qui ne savent pas encore. Sur ces images, mes parents n'ont pas encore eu leur fille. Ils ne l'ont pas encore perdue. Mon père a filmé cette enfance, c'était au début des années 60. Il n'y a plus de film. J'ai moi aussi filmé mon enfant sans rien savoir de tout cela. Ces images de mon fils m'ont renvoyé à d'autres images, absentes, celles de ma sœur, et à la vérité d'une histoire cachée.
Beau travail personnel qui peut intéresser plein de gens qui vivent avec ce qu'on appelle un secret de famille. Je vous rappelle aussi la sortie demain du formidable polar d'Olivier Marchal dont on parlait hier, Carbone, avec Benoît Magimel, Gérard Depardieu, Laura Smet ou encore Dany. Et puis j'ajoute un dernier polar, Le Fidèle, du Belge Michael R. Roskam avec Mathias Schoenaerts et Adèle Exarchopoulos. Une affaire de braquage et de sentiments très efficacement menée sans être révolutionnaire. Notez que c'est le candidat de la Belgique pour l'Oscar du meilleur film étranger.
Merci beaucoup Stéphane. Dans quelques instants, on fait un point sur nos audiences télévisées de la veille avec Isabelle Morini-Bosque. Et puis on parlera musique, bien entendu, en l'occurrence Eurovision avec Steven Bellos.
RTL Matin, laissez-vous tenter avec Yves Calvi.
Bonne journée à tous, il est 9h09. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier soir à la télévision? Nous donnons les résultats d'audience avec Médiamétrie, Isabelle Morini-Bosque.
Vous êtes pressé, hein?
Oui.
Eh bien, en tête, Broadchurch sur France 2, 4 300 000 téléspectateurs allés à la louche et 17% du public. C'est donc Joséphine, mais c'est une rediffusion qui est très faible hier. 3 900 000 téléspectateurs et 17% du public. Ma pauvre Muriel Robin et ses éléphants sont hélas dans les choux, croyez que je le regrette. Moins de 2 millions de téléspectateurs et moins de 9% du public sur France 2. Et alors, le carton, c'est pour M6 avec Astérix, le domaine des dieux. C'est un film M6 Studio qui avait 30 millions d'euros de budget et 3 millions d'entrées en salle. Et ben c'est aussi un carton. 4 millions de téléspectateurs, 16% du public sur la 6. Et puisqu'on en est à la 6, je signale un chouïa de programme du soir, la troisième émission du meilleur pâtissier sur M6. Gros plan ce soir sur les biscuits. Ça tombe bien puisque le programme justement des biscuits n'en manque pas. Et d'ailleurs, Charlotte, il y aura justement un gros plan sur vous avec les Charlottes. Mais c'est surtout celle aux fruits dont il sera question ce soir sur M6.
Vous êtes dans une forme.
Et alors côté TNT tout de même, c'est les gardiens de la galaxie sur TMC qui font la maille. 1 500 000 téléspectateurs.
Ils font la maille. Musique à présent, l'actualité de la semaine au rayon disque est marquée par le retour du chanteur Amir, Steven Bellery.
Bonjour à tous.
Un an et demi après l'Eurovision et un premier album vendu à 250 000 exemplaires, il vient de sortir Addiction avec un S. Hein.
15 morceaux, une pop française efficace et séduisante. Son précédent disque m'avait laissé de marbre. Cette nouvelle collection de chansons est plus soignée. Amir a fait confiance à la même équipe artistique. Premier exemple avec Les rues de ma peine.
Je ne squatterai plus les rues de ma peine. Quand je suis perdu, je veux que tu me ramènes. Je veux qu'on aille bien, je veux qu'on aille loin et qu'on traîne. Je ne squatterai plus les rues de ma peine. L'amour ça tue, sauf quand tu te démènes. Je veux qu'on fasse bien, je veux qu'on s'aille loin et qu'on traîne.
Amir cède parfois à la facilité, on devine les rimes, mais il a le mérite de l'éclectisme sur ce nouveau disque. Hymne pop électro cohabite avec des ballades et des chansons plus acoustiques et inattendues. Et contrairement à son premier enregistrement, il s'autorise à parler d'amour, l'occasion de demander à Amir s'il se considère comme un chanteur romantique.
Qu'est-ce que c'est qu'un chanteur romantique? Est-ce que ce sont les chanteurs qui racontent des histoires d'amour? Est-ce que ce sont les chanteurs qui essayent de plaire en chantant? Je ne sais pas. Pour ma part, peut-être peut-être que le manque de romantisme que j'ai dans la vie de tous les jours est comblé par des chansons qui parlent de tous ces thèmes que je n'ose pas aborder en discussion normale. La musique, ça fait rêver, la musique, ça transporte vers un monde imaginaire où tout est beau. En tout cas, on peut se le permettre. Chanter l'amour, sans pour autant le faire niaisement, je pense que c'est complètement justifiable et ça touche tout le monde surtout.
Parfois, sans voix. Parfois, sans toi, je me sens triste comme une main de pianiste qui aurait paumé son envie de jouer. Faut croire que sans toi, je suis pas doué. Oh.
Autre fil rouge du nouveau disque d'Amir, La Paix, Steven.
Oui, c'est peut-être à nous de la faire. La paix sur la terre, lance le chanteur de 33 ans en ouverture du disque. Est-ce par péché de naïveté ? Réponse d'Amir.
Moi-même sensible à la question, ayant grandi une partie de ma vie dans un pays où il n'y a pas de paix encore, malheureusement, et c'est ce qu'on se souhaite en Israël, d'avoir le plus rapidement possible, et en plus, venir en France et voir qu'il y a encore ce gros souci-là, des gens qui essayent de se battre violemment pour des valeurs qui ne justifient pas autant de sang et autant de violence. Je le ressens, en fait, c'est inné en moi, cette volonté d'essayer de calmer le jeu. Après, je suis juste une personne, rien de plus, parmi des millions et des millions de personnes, mais j'ai l'impression qu'il faut en parler de ce souhait qu'on a en commun d'aller un peu mieux et qu'il faut peut-être se responsabiliser aussi. En tant qu'artiste aujourd'hui, le fait qu'il y ait des gens qui m'écoutent, que je peux peut-être influencer avec un mot dans une chanson, eh ben je le tente, je le fais, j'ai rien à perdre et j'en parle.
Anya, veut-on s'aimer comme des frères? Nos parents étaient si différents. Anya, tu es des millions sur terre, le prénom n'est pas très important. Que tu portes une croix ou une étoile, un petit point rouge ou un voile, la réalité est la même. Et puisqu'on récolte ce que l'on sème, je t'offre ce poème. Anya, un oiseau aux ailes blanches.
Addiction, le nouvel album d'Amir vient de sortir. Il est en concert partout en France jusqu'au 13 décembre et démarre une nouvelle tournée en mai prochain. Il sera en live à 11h avec l'ami Stéphane Bern dans À la bonne heure.
Avec plaisir, une petite louche d'Amir. Merci Steven Bellery. Et puis je précise que Karine Viard sera aussi l'invitée de Stéphane Bern dans l'émission aujourd'hui à la bonne heure. On va passer maintenant à la littérature. Bernard Lehu, un mot tout d'abord du prix Goncourt qui sera attribué lundi prochain. Et puis depuis hier, on connaît en fait les quatre finalistes.
Ça oui, alors serre, hein. Deux femmes, deux hommes. Véronique Olmy pour Bakita, bouleversant destin d'une petite esclave devenue la première sainte africaine. On vous a dit tout le bien qu'on en pense ici même. Comme on aime aussi le livre d'Alice Zeniter, L'art de perdre, consacré à l'histoire des Harkis. Alors, ce sont déjà deux des grands succès, des vrais succès de la rentrée. Et le Goncourt pourrait bien se jouer entre les deux femmes.
N'oublions pas les garçons, s'il vous plaît.
Ah bah, Yannick Enel, pour Tiens ferme ta couronne, odyssée assez déjantée d'un scénariste qui veut adapter la vie de l'auteur de Moby Dick, Herman Melville. Enfin, Éric Vuillard signe l'ordre du jour sur l'arrivée d'Hitler au pouvoir. C'est un peu incongru parce que ce livre était sorti au printemps. Bon, oui. En général, le Goncourt sélectionne des livres de la rentrée d'automne. Bon, enfin, c'est comme ça. Les Goncourt n'en font qu'à leur tête. Rendez-vous lundi donc à 12h45 chez Drouan pour connaître le nom du Goncourt 2017.
J'espère bien que les Goncourt sont libres. Hein. En tout cas, vous serez présents comme à chaque fois. Alors en attendant, vous allez nous présenter ce matin Très à table. Hein. C'est le nouveau et tout dernier recueil de nouvelles vendues au profit des Restos du Cœur.
Oui, l'initiative a été lancée il y a 4 ans par les éditions Pocket. 13 écrivains offrent chacun une nouvelle inédite et les lecteurs sont généreux. 200 000 exemplaires du recueil se sont vendus chaque année au prix de 5 euros. Un livre acheté égale 4 repas distribués. Bah, faites le calcul, multiplié par 3 années, ça fait près de 2,5 millions de repas servis en 3 ans. Et alors, parmi les auteurs associés à cette 4e édition, cette année, Michel Bussy et Adélaïde de Clermont-Tonnerre.
Coluche, il a eu un élan qui est absolument magnifique et qui arrive à vivre grâce à Véronique Colucci. Et moi, je trouve merveilleux que enfin les écrivains puissent être associés à ce genre d'initiative.
C'est vrai que quand on écrit, c'est toujours quelque chose de très solitaire. Alors que, évidemment, là, les Restos du Cœur, c'est une entreprise collective et qui change vraiment du quotidien de l'écrivain. Et puis, il y a le mélange des genres. Et donc, j'aime beaucoup que dans un même volume, on rassemble 13 auteurs qui viennent d'univers très différents. Ça me plaisait aussi beaucoup comme intention.
Alors, thème imposé cette année aux auteurs, Michel Bussy, bien sûr, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, mais il y a aussi Maxime Chattam, Christian Jacques, ou encore, et ça c'est une première, la lauréate du Goncourt 2016, Leïla Slimani, et puis on ne peut pas les citer tous. Le thème de cette année, c'est l'amitié. La nouvelle de Michel Bussy, maître du suspense, d'ailleurs je signale que son nouveau roman, on l'a trouvé plutôt joli, vient de sortir aux presses de les citer. Eh bien, sa nouvelle a pour titre « Je suis Li Wei », et elle entraîne le lecteur de Fécamp à la Chine.
C'est l'idée d'une amitié épistolaire, notamment par échange de mails. Un grand classique de l'amitié aujourd'hui que de garder ses amis par une relation épistolaire, même si les gens sont très loin. Moi, on m'attend évidemment sur la chute, surtout sur une très courte nouvelle. Donc, il faut que j'essaye de trouver une fin surprenante. Bon, c'est ce que j'espère avoir fait.
Ben oui, Michel Bussy, vous l'avez fait. Alors, et quant à la nouvelle d'Adélaïde de Clermont-Tonnerre, grand prix l'an dernier du roman de l'Académie française avec le dernier des nôtres, disponible au livre de poche, eh bien, sa nouvelle s'intitule « Mon cher cauchemar, tout un programme ».
Souvent, l'amitié, c'est aussi la perte de l'amitié. Je crois qu'on a tous vécu ça à un moment. Donc, ce sont deux femmes qui se retrouvent tard dans leur vie à un enterrement d'un homme qu'elles ont aimé. Elles étaient très amies. Cet homme les a séparées. Et c'est toute leur vie qu'elles vont revisiter avec, finalement, la douleur sentimentale vis-à-vis de cet homme qu'elles ont aimé, mais aussi la douleur sentimentale de cette amitié qu'elles ont gâchée.
Très à table, avec un gros point d'exclamation, hein, où encore les écrivains mettent leur talent au profit des Restos du Cœur. Le recueil de nouvelles paraîtra jeudi, hein, vous devez patienter jusqu'à jeudi. C'est chez Pocket et au prix de 5 euros, soit, et on le répète et on insiste, 4 repas distribués au profit donc, des Restos du Cœur.
Et de la littérature de qualité vient de nous confirmer à l'instant même notre camarade Bernard Lehu.
Évidemment.
Dans quelques instants, de la musique de qualité, ce sera avec Charlotte Latour et notre ami Handel, avec Philippe Larousse.
RTL Matin, laissez-vous tenter. Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Place à un chanteur d'opéra que nous aimons beaucoup ici, le contre-ténor star Philippe Jarouski. Il vient de créer une académie de musique, il sort un nouvel album. Charlotte Latour, bonjour.
Bonjour.
Vous avez rencontré ce chanteur lyrique au sommet de son art.
Et oui, à 40 ans, et malgré la fulgurance de sa carrière, Philippe Jarouski parvient encore à innover avec la création de cette académie, nous allons en reparler, mais aussi avec son tout premier album consacré entièrement à Handel. Riccardo Primo. Les voix de contre-ténor sont surtout utilisées dans le répertoire du XVIIe, XVIIIe siècle, répertoire baroque, et on sait que Handel en était très friand. Alors si ce dernier a composé 35 opéras entre 1711 et 1741, aujourd'hui, un peu moins de 10 sont donnés régulièrement. Philippe Jarouski a choisi de piocher dans toute la production du musicien pour cet album, avec pas mal d'airs peu interprétés. Il faut dire aussi qu'il n'a plus grand-chose à prouver, hein, notre chanteur. Là, sa maîtrise vocale n'est plus à démontrer, et du coup, ça n'est pas un album démonstration de virtuosité. Il y a un ton un petit peu plus posé, moins flamboyant que dans les précédents, qui confère sérénité et équilibre à ce nouvel opus.
J'ai beaucoup attendu avant d'enregistrer un album complet Handel, parce que c'est évidemment l'eldorado des contre-ténors. Il y a tellement d'air sublime à chanter. Alors j'ai essayé de faire un choix d'air un petit peu plus intime, peut-être moins connu, qui montre peut-être légèrement un autre Handel que celui qu'on a l'habitude d'entendre dans Alcina, du Giulio Cesare, ces grands opéras triomphants. Je pense être arrivé effectivement à une maturité vocale où je suis assez serein. Avant, j'étais peut-être plus nerveux par rapport justement, par exemple, à la projection vocale.
La voglio si da fuori,
Extrait de Cersei. Philippe Jarouski dirige aussi son ensemble de 20 musiciens Arta Cersei sur ce Handel, album paru chez Erato.
Alors, autre nouveauté, Charlotte, notre Jarouski a créé son académie. De quoi s'agit-il exactement ?
Alors, il s'agit de prendre en charge deux groupes. Déjà, 23 enfants de 7 à 12 ans, ils n'ont aucune connaissance musicale et se voient prêter gratuitement partitions et instruments, violon, violoncelle ou piano. Et ils vont travailler 2 heures par semaine leur instrument pendant 3 ans. Ce sont les jeunes apprentis. Moi, j'étais présente quand on leur a remis les instruments. Je peux vous dire qu'ils étaient fiers comme tout. Ils posaient pour les photos devant les parents.
Je ne viens pas d'une famille de musiciens. J'ai vécu en banlieue parisienne, dans une famille de classe moyenne, et la musique, voilà, n'était pas prévue. Et c'est grâce à un professeur de collège que j'ai commencé le violon à l'âge de 11 ans. Et l'idée, c'était, voilà, après 20 ans déjà sur scène, de me dire, cette chance que j'ai eue, c'est peut-être à moi maintenant de la donner à d'autres.
Charlotte, vous nous avez parlé donc de ces jeunes apprentis, mais l'Académie cible aussi des jeunes qui sortent du conservatoire.
Alors, c'est un moment charnière dans une carrière. On sort du conservatoire, on maîtrise son instrument, mais alors comment faire ensuite pour percer ? Il y a souvent un moment de flottement pour ces pré-professionnels. Notre contre-ténor a sélectionné parmi plus de 100 candidatures 27 jeunes talents de 18 à 25 ans. Les chanteurs sont coachés par Philippe Jarouski lui-même, les pianistes, les violonistes et les violoncellistes par un trio d'artistes trentenaires, quarantenaires, français, reconnus et énergiques. Là aussi, la formation est 100% gratuite. Il y a bien sûr des mécènes derrière tout cela pour financer le dispositif. En tout cas, de quoi proposer à ces jeunes un tremplin.
Moi, ce qui m'a énormément frappé, c'est qu'ils ont, je crois presque tous, joué mieux en concert qu'en répétition. Donc ça veut dire que c'est quand même des gagnants, c'est des battants, ils ne se sont pas effondrés. C'est des vrais artistes, ça veut dire qu'ils ont vraiment envie d'être sur scène, malgré le stress, malgré la pression. Donc on veut leur donner un maximum d'expérience, de se consolider. Puis évidemment, le but final, c'est de faire venir des agents, des directeurs de salle.
L'Académie Philippe Jarouski, elle s'est installée au sein de la scène musicale sur l'île Seguin à Boulogne-Billancourt. Vous pourrez retrouver le chanteur en concert le 28 novembre à Versailles, le 30 à Toulouse, le 2 décembre à Aix, et puis ensuite à l'Opéra Garnier en janvier pour une œuvre finlandaise, et dans Alcina de Handel au Théâtre des Champs-Élysées. Je peux continuer comme ça jusqu'en 2022 facilement. Un artiste qui ne chôme pas.
Voilà. Il y a un âge limite pour l'Académie ou je peux encore y aller ?
C'est fini, ça y est, c'est fini, ça va. En fait, vous êtes jeune, c'est bon.
Et puis, il faut le talent, sinon, quand même.
Qu'est-ce que vous entendez dire ?
En tout cas, voilà une vie d'artiste bien remplie, celle de Philippe Jarouski. Merci de nous avoir fait passer ce moment avec lui, Charlotte Latour. Dans quelques instants, on se dit au revoir et on accueille notre camarade Julien Courbet. Belle journée à l'écoute d'RTL.
RTL Matin. Laissez-vous tenter.
Dites donc, si je vous mets ce générique, ça vous dit quelque chose ? Bon, mais enfin, c'est le retour de la nouvelle star, on est ravis. Ouais. Et nous les recevons demain, Steven Bellery, quelques informations.
Moi.
Ah, pardonnez-moi, c'est lui qui m'a.
C'est parce que c'est
il est
chanteurs.
Très très fort.
Moi, c'est alors, après quand ils ont sorti les disques.
On sera avec Benjamin Biolay et Chaim qui présentent la nouvelle star. Et honnêtement, le bout à bout que j'ai vu, j'adore.
Le rendez-vous est donc quand à l'antenne ? Oui.
Ah, bah entre 9h et 9h30.
Non, ça pour nous.
Ah, pardon. Mais,
oui, excusez-moi, la télévision.
Demain. Eh ben, c'est demain voilà. Soir.
Demain soir, à partir de ?
À partir de 20h05. Oh, allez, 21h, à la louche.
Oh, bon, 21h, vient de nous dire Thomas Valentin. Oh, nous sommes informés de la voix du cheval, si je puis dire. On va tout de suite retrouver Julien Courbet.
Oui, qui lui va présenter non pas la nouvelle star, mais le nouveau store. C'est une
bonne
émission. C'est un dérivé, on a fait appel à mes hormones.
Il y a un jury. Je veux bien en faire partie.
On les monte et on les descend. Bien monté, je mets un 4. Ah oui, mais là, le soleil passe encore un peu. On voulait l'obscurité totale, je suis obligé de vous mettre un 3. Le nouveau store, ça va faire un carton.
Ah, j'ai hâte, ça va.
Il y a le patron d'M6 qui est là, vous
m'avez dit ? Oui, il est là.
Est-ce que vous pouvez lui proposer le concept et lui demander si ça l'intéresse ?
Je crois qu'il est très intéressé. Bon, voilà, mais vous savez, c'est un homme pondéré, donc il réfléchit.
Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée.